With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, et pour ce soir dans une configuration un petit peu particulière puisque nous sommes au Club de l'Étoile et en public. Vous êtes bien là ?
Ouais !
Ah, merci, vous avez tout donné, c'est super. Donc ils sont tous présents, tous ceux qu'on vient d'entendre, pour découvrir ou redécouvrir un film certes récent, mais qui, selon nous, n'a pas vraiment eu les honneurs qu'il méritait. Il s'agit d'À la poursuite de demain, soit Tomorrowland pour les bilingues, le film de Brad Bird de 2015. Pour ceux qui, du fond, ne suivent pas Brad Bird, c'est le réalisateur du Géant de fer, des Indestructibles, de Ratatouille et de Mission Impossible, Protocole Fantôme. À la poursuite de demain est coécrit par Damon Lindelof, si, c'est le mec qui a créé Lost et The Leftovers, et compte notamment George Clooney, Britt Robertson et Hugh Laurie à son casting. On va en causer avec notre ami, Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Perrine.
Allez, c'est Nos Ciné Extra Ball spécial À la poursuite de demain, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Pour résumer, À la poursuite de demain, c'est l'histoire de Kazé, une jeune adolescente brillante et optimiste, avec une certaine capacité scientifique, et Franck, un homme qui fut autrefois un inventeur de génie, mais désormais déçu. Ils s'embarquent tous les deux pour une périlleuse mission. Le but, découvrir les secrets de Tomorrowland et, accessoirement, potentiellement sauver le monde, rien que ça. Mais bon, quand on dit À la poursuite de demain, tous ceux qui savent pensent au mot échec. En France, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque le film a frôlé environ les 900 000 entrées, ce qui est pas mal lors de sa sortie, surtout dans le marché actuel. Mais globalement, à l'échelle mondiale, c'est un autre son de cloche, puisque le film avait coûté approximativement 180 millions de dollars hors frais de promotion et n'a rapporté que 209 millions de dollars au total, ce qui n'est pas foufou, voire pas bien du tout pour un blockbuster, et encore moins pour un film produit par Disney, n'est-ce pas Rafik ?
Tout à fait, et on peut dire que c'est effectivement un film qui se destinait à l'échec en jouant sur un réseau de valeurs qui vont complètement à l'encontre de son époque et qui l'a rendu très difficilement marketable. Déjà, ça n'est pas une adaptation d'une série connue, ça n'est pas une franchise installée, ça n'est pas une suite, c'est un projet original qui s'est développé en fait dans un studio Disney qui était en pleine mutation, qui passait du Disney, on va dire, des années 90, celui qui faisait vraiment encore référence à son âge d'or et dans l'héritage de son fondateur, Walt Disney, à le studio des néo-franchises que sont Marvel et Star Wars, entre autres. Tomorrowland, au départ, c'est Damon Lindelof qui l'a proposé à Disney. Le projet aurait dû s'appeler 1952 au départ. Il a été greenlighté parce qu'effectivement, il y avait la possibilité, comme Disney le fait souvent, de jouer avec des attractions qui existent dans leur parc.
L'effet Pirates des Caraïbes, notamment.
Tout à fait. Et le film faisant ouvertement référence à Epcot, cette cité futuriste dont rêvait Walt Disney, il y avait la possibilité de jouer un peu sur cette imagerie. Ce qui a collé en fait avec Brad Bird, c'est que Brad Bird, c'est quelqu'un qui a été formé au California Institute of the Arts, donc l'école des animateurs Disney, dans une classe d'ailleurs qui est devenue mythique, puisque ses copains de sur les bancs étaient John Lasseter, Tim Burton, Glenn Keane, enfin plein d'animateurs ou réalisateurs.
La fameuse salle à 113.
La fameuse salle à 113, tout à fait. Avec un professeur extrêmement renommé, mais bon, ça, on en reparlera dans d'autres podcasts. Toujours est-il que Brad Bird, en fait, il a grandi dans une certaine appréciation de ce que signifie la marque Disney, qui est cette espèce d'allant vers un futur meilleur, en fait, une espèce d'optimisme totalement dans l'héritage de l'Amérique des années 50. Le film, donc, au départ, s'appelait 1952. Il met en scène La grande foire aux inventions qui avait vraiment eu lieu dans les années 60.
À New York. Hein.
Voilà, tout à fait. La New York Fair. Et c'est un film qui, en fait, se sert de ce passé, on va dire, conquérant pour poser la question, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la vision qu'on a de nous-mêmes ? Et du coup, de l'imaginaire, en fait, qui nous aide à avoir une vision de nous-mêmes. Et donc, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que ce projet commençait à se développer à l'époque où Disney a mis la main sur Star Wars. Et bien sûr, parmi les réalisateurs potentiels qu'ils avaient sous la main, ils en avaient un qui était parfait parce que c'est à la fois un animateur et un réalisateur de films live qui connaît très bien la franchise et qui en est fan, c'est Brad Bird lui-même. Et il lui a été proposé de reprendre la franchise pour Star Wars épisode 7. Et Brad Bird a refusé pour faire Tomorrowland. Et d'ailleurs, il a dû s'en défendre auprès de journalistes parce que quand on a su qu'il travaillait pour un film de science-fiction pour le studio Disney, les gens étaient persuadés qu'il avait menti à tout le monde et qu'il faisait vraiment Star Wars. Donc il a dû démentir en disant non, ça s'appelle Tomorrowland. Voilà,
ça a dû leur faire tout drôle hein, quand ils ont vu Tomorrowland. Ah, mais c'était pas Star Wars.
Alors, bien sûr, je vais pas révéler ici le récit du film, mais c'est quand même un film qui est entièrement construit sur l'idée que ce qui nourrit notre imaginaire est aussi ce qui nous fait avancer. Ce que Brad Bird a injecté là-dedans à titre personnel, Damon Lindelof, lui, on va dire, il a vraiment amené le concept de ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé le plus ultra, c'est-à-dire l'idée de cette société secrète à laquelle aurait appartenu Walt Disney, Gustave Eiffel, Nikola Tesla, Edison, et dans l'idée de créer un monde meilleur.
D'autres grands inventeurs un peu rêveurs. Quoi.
Voilà, des grands rêveurs, avec cette idée que le Epcot de Disney n'était qu'un paravent pour réellement bosser sur une vraie cité futuriste qu'ils auraient construit ailleurs. Lindelof étant un de ces scénaristes qui se nourrit beaucoup des théories de la conspiration, il s'est passé un truc assez amusant, c'est que dans la réalisation du film, toutes les références à cette société secrète plus ultra ont progressivement disparu. On n'en entend plus vraiment parler dans le film final. Mais comme... Pour le marketing, ils avaient commencé à faire des sites internet dans une espèce d'alternate reality game de ce qu'on appelle les ARG, où il fallait découvrir des choses autour du film. Il existe en fait, si on cherche très bien, un site consacré à cette fameuse société secrète plus ultra, donc auquel auraient appartenu tous ces personnages qu'on vient de citer, mais qui aujourd'hui, détaché du film, fait que certains conspirationnistes pensent que ça fait référence à une vraie société secrète. Donc ça, c'est marrant comment ça rejoint.
La réalité a dépassé la fiction.
Enfin, voilà, en s'inspirant des conspirations, on en nourrit d'autres. Donc ça, c'était pour l'apport de Lindelof. Mais ce que Brad Bird va injecter là-dedans, c'est son propre rapport à l'imaginaire. Brad Bird, c'est comme toi et moi, quelqu'un qui a grandi dans l'amour de ces grandes franchises, justement, qui ont été Star Wars, les Marvel et autres, mais qui en est à un stade de sa vie où il voudrait un peu dépasser ça et arrêter de constamment tourner et faire du surplace, comme l'industrie du cinéma nous invite à le faire régulièrement. Et il y a dans le film une séquence notamment qui, pour moi, est extrêmement emblématique de ce que le film raconte en sous-texte. C'est une séquence qui est dans une boutique geek qui s'appelle Blast from the Past, donc vraiment un éclat du passé, dans laquelle on a deux espèces de nerds caricaturaux, obsédés par Star Wars. Ils vendent plein de merchandising, dont les films de Brad Bird eux-mêmes. Hein. On voit des statues du géant de fer, etc. Et encore une fois, sans révéler trop de l'intrigue, ces deux nerds vont se retrouver coincés dans une bombe temporelle, totalement figée, en fait. Et l'héroïne, elle, va réussir à s'en échapper. Pour moi, ça, c'est vraiment un signal de ce que Bird est en train de nous raconter. Quoi. Si on reste coincé dans ce goût passéiste pour ce qui nous a nourris, on bougera jamais, on n'ira pas au-delà. Quoi. Or, tout le parcours de son héroïne casée, c'est justement de ne jamais se contenter de là où on en est et de ce qui s'est fait dans le passé. Elle passe son temps à demander qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a une scène comme ça à l'école où on lui expose tous les problèmes du monde, du terrorisme, de la fonte des glaces, etc. En gros, on va tous crever et elle passe son temps à lever le doigt. Elle n'a qu'une seule question qui lui brûle les lèvres, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un personnage actif qui a un regard constamment tourné vers un avenir meilleur possible, voire probable, et qui justifie que le film s'appelle véritablement Tomorrowland. Donc cette façon de rappeler au public qu'un état d'esprit qui a priori été perdu, qui est donc celui qui effectivement animait une partie des Américains des années 50-60, comme qui était convaincu d'être la plus grande nation au monde et que l'avenir futuriste qu'ils étaient en train de créer allait être absolument merveilleux, tout ça s'est un peu écroulé dès les années 70. Dans le cynisme ambiant des scandales politiques et des guerres à répétition.
Et les chocs pétroliers et compagnie.
Comment ?
Et les chocs pétroliers et compagnie. Enfin,
le choc
la baisse économique.
La guerre du Vietnam, Watergate, enfin, on connaît bien cette histoire-là, mais dont on semble ne toujours pas s'être relevé. Et à cela, c'est rajouté aujourd'hui, dans notre immobilisme, la culture populaire, qui jusque-là était une culture qui nous nourrissait et qui nous poussait à aller justement de l'avant, et qui elle-même est devenue un objet de surprise. Place en fait, justement à travers les productions Disney actuelles qui cartonnent, qui sont donc les Marvel, les Star Wars et autres, où en fait on nous convie uniquement à venir retrouver l'éclat perdu du passé.
D'ailleurs, cette année-là, en 2015, Disney a peut-être souffert de Tomorrowland. Ils ont fait une perte de 120 à 140 millions de dollars, ouais. C'est ce qui est estimé à cause du film. Mais ils s'en sont plutôt bien sortis cette année-là, puisque Ant-Man et Avengers, l'ère d'Ultron, sont sortis aussi en 2015 et ont fait les cartons qu'on connaît, ainsi que vice-versa d'ailleurs cette année-là.
Tout à fait. Et donc, alors, je ne pense pas que Tomorrowland aurait pu être un succès, même avec une promotion plus intelligente, vu l'état d'esprit qui affecte les studios, mais qui affecte aussi une partie du public, quoi, qui n'est pas disposé à aller à la recherche du nouveau. C'est dommage à plus d'un titre, parce que je pense que c'est un film qui porte des valeurs sans les manifester bruyamment. Moi, je trouve, c'est un avis évidemment qui n'engage que moi, mais qu'on a avec Kazé un des meilleur personnage féminin que j'ai pu voir ces 15 ou 20 dernières années. D'abord, c'est un personnage. Elle a un caractère éminent et évident. C'est une emmerdeuse. Elle se laisse pas faire. Elle est tout le temps... Je disais, si Brad Bird avait dû en faire un dessin animé, il en aurait fait un renard de cette jeune fille. Tellement elle est tout le temps à l'affût de quelque chose et maligne, quoi. Et quand on voit que les grands personnages féminins qui nous sont présentés comme modèles sont des Wonder Woman ou des... je sais même plus son nom, celle de Star Wars, c'est l'épisode 7, Rey quelque chose, Rey. Voilà, qui... À mes yeux, ça n'engage que moi, sont véritablement des pots de fleurs et des potiches qui servent à rien dans une intrigue qui les dépasse complètement la plupart du temps.
Prenez ça ou Wonder Woman et Rey.
On a vraiment avec Kazé un personnage qui fait avancer l'intrigue. Les choses se passent parce que elle a décidé de s'engager dedans et que les questions, les difficultés auxquelles elle est confrontée l'obligent à se remettre systématiquement en question. Ça, c'est déjà vraiment un point très fort. Il y a un autre point que je trouve magnifique dans le film, justement de retour à cette rêverie du passé à travers un personnage que je ne citerai pas, mais de cyborg et d'une relation humaine qui a pu se créer avec ce personnage-là, que je trouvais incroyablement touchant. Bref, pour Brad Bird, c'est une façon de dire l'Empire Disney, à une certaine époque, ça a été cet état d'esprit-là. Alors, on peut dire que c'est un rétrograde ou quoi que ce soit. En plus, il a dû se défendre politiquement parce que le film s'est fait pas mal attaquer pour ses références à Ayn Rand. Alors je resitue un petit peu. Ayn Rand, c'est une romancière américaine qui a écrit deux romans qui sont parmi les plus vendus aux États-Unis de tout le XXe siècle, La Source Vive et La Grève, et qui était la créatrice d'une espèce de philosophie qui s'appelle l'objectivisme, qui est assez compliqué à résumer, mais qu'on qualifierait de philosophie de droite, plus ou moins, mais qui est vraiment anti-collectiviste. Et très très axé sur l'individu et sa capacité à transcender les règles sociales, en fait. C'est la philosophie des entrepreneurs, si on veut. Et donc Lindelof s'est souvent intéressé à ce personnage-là. Il l'a cité déjà dans Lost à plusieurs reprises. Et c'est un personnage assez ambigu, enfin politiquement ambigu, en fait. On ne sait pas trop si c'est libertarien ou vraiment une droite bien, bien dure. Toujours est-il que Brad Bird l'a souvent frôlé, ce personnage d'Ayn Rand, puisque les Indestructibles mettaient déjà en scène des personnages qui vivent dans une société qui n'accepte pas leur excellence. De la même façon que Ratatouille mettait en scène un personnage qui vit dans un monde qui n'accepte pas son excellence. Et le goût qu'a Brad Bird pour l'excellence, pour la capacité à se dépasser soi-même, et la nécessité de transcender les valeurs sociales qui emprisonnent l'individu dans une espèce de miasme d'immobilisme, tout ça a fait qu'on l'a souvent accusé de faire de la promotion d'Ayn Rand. Et la critique américaine, notamment new-yorkaise ou à Los Angeles, étant plutôt démocrate de gauche, il voit ça d'un mauvais œil. Et Brad Bird a dû se défendre, parce qu'effectivement, lui... c'est pas un randien, c'est même pas un libertarien, c'est juste qu'effectivement il rejoint le monde d'Ayn Rand sur cette idée de l'individu capable de s'extraire des règles sociales qui l'empêchent d'avancer. Et donc Tomorrowland est un film qui porte aussi cette idée-là à travers notamment une métaphore que je vous inviterai à découvrir autour des loups, de savoir à quel loup on choisit de nourrir. Et Bird, qui lui-même est un personnage qui se voit comme excellent, je pense que il n'a aucune humilité par rapport à son talent. Je pense que ce film raconte au fond beaucoup de ce qu'il est.
C'est un film aussi un petit peu optimiste aussi, parce que quand même c'est Brit, c'est une adolescente, et le film dit Cazé. Bien que le
Cazé.
Je dis oui, c'est Brit Robertson, c'est l'actrice. Cazé, c'est le personnage. Donc Cazé est un personnage jeune, c'est une adolescente, et clairement c'est comme tu le disais, c'est elle qui va faire avancer le récit en permanence, c'est elle qui va faire bouger toutes les lignes tout le long du film. Il a quand même une idée que c'est la jeunesse qui peut faire bouger les lignes, c'est la jeunesse qui doit se rebeller contre une sorte de marasme ambiant, en tout cas.
Tout à fait. Et il y a dans la philosophie de travail de Brad Bird quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film, qui est l'idée d'utiliser absolument tout ce qu'on a, tous les moyens qu'on a. C'est-à-dire que Bird ne laisse jamais une scène en l'état s'il n'a pas utilisé toutes les possibilités. Il y a une séquence notamment... dans la maison
de
George Clooney, voilà, où ils se battent contre des personnages qui s'avèrent être des robots, et le nombre incroyable d'idées visuelles qu'il y a dans cette séquence là on sent bien le réalisateur qui s'est dit, on ne sortira pas de cette maison tant que je n'aurai pas fait tout ce que je peux faire avec ce type de gadget, en fait. Il y a des séquences qui pourraient se contenter d'être un simple champ contre champ, comme par exemple la première fois où elle rencontre Clooney, justement, où elle va le voir chez lui. Et qu'il arrive à retourner, en fait, par sa mise en scène. Enfin, il y a, bon, c'est Brad Bird, c'est aussi quelqu'un dont on sait que c'est un metteur en scène incroyablement dynamique, incroyablement rythmé, mais on voit bien qu'il est parfois dépassé par le trop-plein d'idées nouvelles qu'il voudrait exploiter. Alors, je reconnais quand même une certaine faiblesse au film dans sa troisième partie, parce que il a à vendre au public quelque chose de très compliqué, qui est la déception. Bon, encore une fois, je ne vais pas révéler l'intrigue.
Non, mais c'est bien. Hein.
Mais il y a quelque chose qui, dans le film, nous porte en tant que public, et dont on finit par réaliser qu'il s'agissait d'une publicité, littéralement, et que la réalité derrière cette publicité, elle est déceptive. Et autant sur le plan narratif, c'est nécessaire, autant c'est super difficile de faire passer la pilule. Et je pense qu'une partie du public s'est détournée aussi du film en raison de ce dernier tiers qui ne va pas dans le sens, peut-être, qui était espéré. Et c'est dommage, parce que le film se conclut sur deux séquences magnifiques, une baston avec des robots que je trouve vraiment jouissive, et cette fameuse séquence émotionnelle que je trouve déchirante, avec une comédienne incroyable sortie d'On ne sait où. Enfin, voilà, je pourrais vraiment en faire comme ça des tonnes sur les qualités multiples du film, en tout cas des choses qui nous prouve, quand on voit justement ce qui a cartonné, comme tu l'as cité tout à l'heure, cette année-là. Enfin, je veux dire, comparer Tomorrowland à Ant-Man, c'est Retour à le futur contre Pino Simple Flic, quoi. On a vraiment l'impression que l'époque a tourné le dos à l'inventivité et à la joie. Et là, je passe pour un vieux con en disant ça, mais je ne refuse de dire que c'était mieux de mon temps, mais je persiste à croire qu'avec des mecs comme Brad Bird, ça sera mieux demain.
C'est exactement ce que je voulais dire. Avec Brad Bird, l'optimisme est de rigueur. L'optimisme, donc accrochez-vous à votre optimisme. Maintenant, notre temps est écoulé. Donc merci Rafik,
merci beaucoup,
Quentin, pour m'avoir aidé à la technique et à comprendre comment ça marche. Et au Club de l'Étoile pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio pour retrouver toutes nos émissions. On vous encourage. Et sinon, on vous dit à très vite.
Rosebud.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.